Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. On continue aujourd'hui de s'intéresser aux premiers ministres les plus marquants de l'histoire et alors que la semaine dernière on s'est penché sur l'un de ceux qui a gouverné l'Australie pendant quasiment toute la Première Guerre mondiale, on va s'intéresser aujourd'hui à celui qui a fait à peu près la même chose pendant la Seconde. Il s'agit de John Curtin, un autre travailliste. Alors, comme d'habitude, on va retrouver l'historien Romain Fati pour parler de tout ça avec lui. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory.
Alors, John Curtin, je fais une rapide présentation de ses premières années. Il a grandi à Melbourne. Il a aussi ensuite vécu dans différentes petites villes de l'État du Victoria. On peut dire qu'il vient d'une famille plutôt modeste. Son père, d'ailleurs, je crois, est gérant de pubs, ce qui explique aussi pourquoi il circule dans différentes petites villes. Il reprend des établissements à droite et à gauche. Et puis au final, assez tôt, il va s'engager auprès du Parti travailliste et même plus à gauche peut-être encore, puisqu'il va aussi rejoindre un parti qui s'appelait alors l'Union socialiste du Victoria. Et ce qui m'a retenu mon attention dans ces premiers temps, c'est que contrairement aux autres premiers ministres dont on a parlé jusqu'à présent, qui étaient, on va dire, de leur temps, c'est qu'ils avaient quand même des positions ouvertement racistes, défense de la politique de l'Australie blanche, etc. Et John Curtin, eh bien, pas du tout. Au contraire, il est plutôt opposé à toute forme de discrimination, en tout cas de discrimination raciale. Et peut-être justement, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, dites-moi si je me trompe, pas à cause de cet engagement très à gauche, voire communiste, qui associe le racisme à une extension du capitaliste et du capitalisme. Et pour lui, en fait, tout ça, c'est la même lutte. Est-ce que j'ai bien compris?
Oui, à grands traits, je pense que ça se tient. J'opérerai une distinction, mais d'abord, je pense qu'il faut repartir en arrière, comme toujours avec les historiens. Pour le situer, il est né en 1885 de parents irlandais ou d'origine irlandaise, et donc il évolue dans la colonie du Victoria, à Melbourne en particulier. Et quand vous dites que ses parents ne roulaient pas sur l'or, ouais, c'est un euphémisme. Hein. C'est vraiment, c'est pas la misère, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de sous. Assez tôt, donc, en réalité, le jeune John Curtin quitte l'école parce qu'il faut gagner de l'argent, en réalité, pour subvenir aux besoins de sa famille, parce que son papa doit arrêter de travailler assez tôt à cause d'une mauvaise santé. Donc vraiment, ce sont des paramètres qui sont pas super. Beaucoup de mobilité, beaucoup de changements, des parents pas très riches, il doit subvenir aux besoins de la famille parce qu'il y a une fratrie. Et en parallèle de ça, en réalité, même s'il quitte l'école assez tôt, il est très doué. Et bien qu'il commence à travailler de petits boulots en petits boulots, distribuer les journaux, travailler autour de personnes qui écrivent, enfin des petits boulots ici et là. Il lit énormément. Il lit énormément et surtout ce qu'il lit, ce sont des grands textes de théorie socialiste et marxiste. Hein, donc il lit Marx assez tôt. Tout ça l'intéresse énormément. Donc c'est un jeune homme qui est politisé et politisé par lui-même. Et qui s'investit dans le mouvement travailliste, si vous voulez, à l'époque. Vis-à-vis de la question, enfin de ce que vous avez soulevé, ça il faut resituer. C'est vrai qu'il est beaucoup moins raciste que la plupart des hommes politiques australiens de l'époque. En fait, si vous voulez, c'est vrai que c'est un internationaliste. C'est-à-dire que il croit en l'international socialiste déjà. Mais aussi, il croit en les institutions internationales de sa génération. Il fait partie de cette génération qui a vu le président américain Wilson, ses 14 points, mettre en place la Ligue des Nations. Ligue des Nations à laquelle il contribuera par ailleurs. Il ira à Genève, pareil avec l'Organisation mondiale du travail. C'est un internationaliste. Il pense vraiment que l'intérêt de l'humanité, c'est de travailler ensemble. Mais ensemble, virgule, chacun chez soi. C'est-à-dire qu'il est un peu anti-impérialiste, pro-décolonisation avant l'heure, sans exagérer. En revanche, sa relation aux aborigènes, à l'époque, dans les années 20, bah, comme beaucoup d'Australiens, ils pensent que la seule chose à faire, c'est d'accompagner une race, j'utilise des guillemets évidemment sur ce mot-là, qui se meurt. Et enfin, par ailleurs, il soutient la politique d'Australie blanche qu'on a mentionnée dans plusieurs épisodes. C'est-à-dire que pour lui, non seulement parce que c'est politiquement un suicide de dire on va arrêter la politique de l'Australie blanche, mais il pense réellement que l'Australie est le bastion des Britanniques dans cette région du monde. Donc effectivement, il est beaucoup plus progressiste que d'autres. Mais on peut pas s'attendre que dans les années 20 et dans les années 30, quelqu'un partage, comment dirais-je, un avis aussi libéral qu'on peut l'avoir aujourd'hui, par exemple.
Ouais,
C'est un peu une
on peut pas
petite
non plus
surprise.
dire qu'il est antiraciste au sens contemporain du terme, mais quand même plus modéré. Ok,
Oui.
merci, merci pour ces précisions. Alors on va avancer un peu dans le temps. Donc il grandit et il fait ses premiers pas dans le Victoria, ce John Curtin. Mais en fait, politiquement, sa carrière va vraiment démarrer une fois qu'il va déménager à l'autre bout du pays, à Perth. Et c'est là, en tant que représentant de Fremantle, l'un des quartiers les plus sympas de cette ville, il est élu au Parlement donc en 1928 et quelques années plus tard, il va même carrément devenir le chef de file du Parti travailliste. Ça, ce sera en 1935. Et pour en arriver là, il va réussir à se rallier le soutien des différentes branches du parti, notamment de l'aile gauche, mais aussi d'un certain nombre de mouvements syndicaux. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce ralliement de ces différentes personnalités et mouvements derrière la personne de John Curtin, c'est que ce qu'ils ont attendu de lui, c'est pas une rétribution politique. Ils lui ont demandé de prendre un engagement qui n'avait en fait même rien à voir du tout avec la politique.
Oui, arrêtez de boire. On va y revenir. Mais avant, je voudrais reprendre quelque chose que vous avez dit, qui est très intéressant. Vous avez parlé de Fremantle comme un quartier très sympa de Perth. Aujourd'hui, oui, effectivement, c'est un quartier plutôt bobo, chic, mais pas du tout à l'époque. Et c'est pour ça qu'il se fait élire là-bas en tant qu'homme de gauche, parce que Fremantle, à l'époque, c'est un quartier plutôt brolo. En réalité. Et comment dirais-je, il construit cette carrière. Alors difficilement, hein. Il lui a fallu trois reprises, trois campagnes électorales avant d'être élu. Mais en fait, il est perçu comme un excellent orateur. Il est jeune, il est plutôt dynamique. Et comme il est parti du Victoria parce que professionnellement, ça avançait pas beaucoup. Il faisait partie du mouvement anticonscription pendant la Première Guerre mondiale. Il a fait quelques jours de prison. Parce qu'il s'est pas présenté à l'appel, si vous voulez. Et donc, il part en Australie-Occidentale parce qu'il y a une opportunité professionnelle de devenir l'éditeur en chef d'un journal assez populaire chez les travailleurs. Faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas l'Internet, et que les gens, même des travailleurs peu éduqués, les gens savent lire et lisent énormément. Tout le monde consomme un, voire plusieurs journaux par jour. Et donc, être journaliste, et il en était très fier. Hein. Même quand il était Premier ministre, il portait son petit badge, enfin son petit pins de l'Association des journalistes australiens. Pour lui, en fait, être éditeur permettait de mettre en lumière les problèmes sociaux et donc le lien entre journalisme et politique, de son point de vue, était évident. Et donc, quand on a un pied ou une main, si vous voulez, dans la presse, c'est facile, plus facile, disons, d'avoir une plateforme électorale. Et effectivement, ça décolle plutôt bien pour lui. Il devient député, Member of Parliament, donc envoyé de sa circonscription de Fremantle dans l'Australie-Occidentale vers Canberra, la nouvelle capitale australienne. Et il se fait repérer assez vite au sein du parti. Parce que c'est un bosseur et parce qu'il parle bien et qu'il utilise les médias, évidemment, puisqu'il est journaliste. Et donc, assez rapidement, dans les jeux de parti qui se font, c'est une époque où la politique australienne est plutôt dominée par la droite, le parti du country, enfin, et les nationalistes, hein, qui s'appellent eux-mêmes comme ça. Et en fait, il y a pas mal de jeux de parti chez les socialistes, enfin les socialistes, Labour, pour savoir qui va être le leader. Et il arrive à ce poste-là, effectivement, parce que, il promet d'arrêter de boire. Et ça, c'est un point assez important. C'est bien qu'il était assez sportif dans sa jeunesse, c'est pas un homme qui a une santé de fer. Il a quelques problèmes de santé. On se demande s'ils ont été aggravés par l'alcool, et c'est un problème qu'il a depuis très très jeune. Je crois qu'il avait fait cette promesse déjà dans les années 20. Il a tenu pendant 5 ou 10 ans et puis il a rechuté. Et c'est pas un alcoolisme d'un ou deux verres tous les soirs. Hein. C'est assez marqué. Et ça le dessert. En fait, dès le début des années 30, on l'a pas nommé ministre parce qu'en fait, il était de notoriété publique qu'il buvait trop. Et donc, au sein du parti, on lui dit, OK, on veut bien te soutenir pour devenir le leader du parti. Et donc, Premier ministre en cas de victoire électorale, mais faut arrêter de boire. Et dit Banco, on y va, on arrête de boire. Et ça l'a probablement sauvé.
Alors donc il y arrive encore une fois, enfin je trouve ça intéressant de voir que voilà, on a un homme plutôt brillant, grand orateur qui apparemment maîtrise parfaitement l'utilisation des médias en tant que politique et dont le seul défaut bah, c'est pas une position sur tel ou tel sujet mais bah, un comportement et en l'occurrence l'alcoolisme qu'il parvient à
Et
vaincre.
ça, c'est important de le remarquer, Grégory, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un de brillant. Brillant en Australie, brillant pour sa génération, un penseur, un gros travailleur, quelqu'un qui n'était pas du tout destiné à ça. On l'a rappelé, sa jeunesse, une jeunesse plutôt enfin, pauvre, très modeste. Et moi, je me pose la question de savoir, voilà, quand il est jeune, il est dans un milieu où les hommes, surtout, boivent beaucoup. Son père tient plusieurs pubs. Donc, il est exposé à l'alcool très tôt. Faut voir qu'à cette époque-là, parfois, il était plus sain de boire des alcools que de l'eau qui pouvait être un peu contaminée. On ne savait pas d'où elle venait. Donc, il réussit à s'échapper de son milieu, si vous voulez, mais il en garde quand même quelques caractéristiques, dont en fait aussi son combat pour les travailleurs.
Alors donc, leader du Parti travailliste à partir de 1935. En 1939, bien sûr, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Et vous le disiez, pendant cette période, en tout cas au début, l'Australie est plutôt dirigée par des conservateurs. En 1935, c'est Robert Menzies, un autre Premier ministre qui a beaucoup marqué l'histoire. On en reparlera sans doute dans un prochain épisode. Et lui, il est très proche, évidemment, de la Grande-Bretagne. Il s'allie à celle-ci et décide, comme elle, eh bien, de déclarer la guerre à l'Allemagne. Sauf que ce Robert Menzies, très rapidement, en fait, il va perdre la confiance de son parti, doit démissionner. Il est remplacé par un autre conservateur qui s'appelle Arthur Fadden. Mais lui aussi, sa majorité, eh bien, est à la merci de deux élus indépendants qui, en 1941, eh bien, décident de le trahir et de basculer. Du côté des travaillistes. Et c'est donc dans ce contexte, quand même pas mal chamboulé et assez instable, que finalement donc les travaillistes arrivent au pouvoir et qu'en l'occurrence c'est John Curtin qui devient Premier ministre. Ça c'est en octobre 1941. Et ce qu'on peut dire dès à présent, c'est que donc c'est un élu originaire, en tout cas qui représente Fremantle, et c'est encore aujourd'hui le seul Premier ministre de l'histoire australienne à être issu de l'Australie occidentale.
Oui, c'est intéressant de le remarquer. Vous avez raison, Grégory. Avant lui, John Forrest, qui a perdu le leadership à un autre premier ministre plus tard, qui s'appelle Cook, qui était du Parti nationaliste. John Forrest de Western Australia aurait pu devenir premier ministre, mais ça n'a pas été le cas. Et bien plus tard dans l'histoire, Kim Beazley, qui était le leader du parti d'opposition, les travaillistes, pendant la période John Howard. Mais vous avez raison, à ce jour, bien qu'il soit né dans le Victoria, il a quand même exercé la plus grande partie de sa vie professionnelle en Australie-Occidentale. D'ailleurs, c'est là qu'il est enterré de mémoire. Et donc, c'est le seul leader envoyé de l'Australie-Occidentale. Bon, c'est pas si surprenant que ça en termes démographiques, si vous voulez, parce que pendant la plus claire partie du XXe siècle, l'Australie-Occidentale, c'est quand même pas une très grande population. Pour revenir à la période Deuxième Guerre mondiale, elle est extrêmement importante. En fait, vous avez des élections un petit peu avant la guerre et la majorité est assez faible. Menzies arrive au pouvoir, Bon, il part en Angleterre pour le travail en tant que Premier ministre et il perd un peu la confiance de son parti, qui est un parti de composition. Et donc, une des composantes de ce parti libéral, c'est le Country Party et il se fait remplacer par Fadden. Et là, on est en temps de guerre hein, depuis Menzies. Et le gouverneur général d'Australie, qui est le chef de l'État australien, représentant de Sa Majesté le roi ou la reine britannique, donc en Australie, voit qu'en fait, il y a une instabilité gouvernementale qui s'installe. Et il consulte les deux indépendants en leur disant, écoutez, si je nomme Curtin du parti politique opposé Premier ministre, est-ce que vous m'assurez que vous resterez loyaux? Parce que moi, en tant que chef d'État, l'instabilité gouvernementale en temps de guerre, basta. C'est pas bon pour le pays. Et donc, c'est ce qu'ils font. Et Curtin, en tant que leader de l'opposition, devient donc Premier ministre. Et c'est un poste qui va lui coûter sa vie, hein, puisqu'il meurt Premier ministre. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. C'est un poste extrêmement stressant, on l'imagine, dans la situation qu'on connaît. Et la situation qu'on connaît, c'est celle-ci. C'est que le 22 juin 1941, les Allemands déclarent la guerre aux Soviets. Donc, la guerre change d'aspect en Europe centrale. Et surtout, le 7 décembre 1941, les Japonais bombardent Pearl Harbor. Et c'est le début de la guerre dans le Pacifique. Et là, ce qui est très important de signaler, c'est que l'empire japonais est absolument colossal et en très peu de temps, conquiert la grande partie de l'Asie Pacifique et les Australiens ont peur de l'invasion.
On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode qui sera publié d'ici quelques jours, eh bien, nous intéresserons à la période la plus importante de la vie de John Curtin, celle au cours de laquelle il a été Premier ministre de l'Australie et ce, en plein durant la Deuxième Guerre mondiale. À très vite donc pour un prochain épisode.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.